France Musique.
Ah. Oh.
Ici, Radio Memeu.
Les greniers de la mémoire.
Vous fumez beaucoup, Serge Gainsbourg.
Oui.
De l'entrée en scène, c'est comme des bras d'amour. Hein.
À vous, mon cher Dac.
Après vous, mon cher Blanc.
Mais je n'en fais rien.
Vous en êtes un autre.
Ma parole, ça fera guincher.
Langage.
Ici, Milan. Régine Crespin a conquis la Scala. Le grand soprano français semble avoir concilié, pour une fois, tous les journaux de Milan de l'extrême gauche à l'extrême droite. Le Corriere della Sera parle d'une Phèdre énergique et douce, tragique et humaine, dont les accents passionnés reflètent admirablement le drame intérieur. Superbe la voix splendide, l'interprétation de Régine Crespin, qui nous a offert hier une Phèdre impeccable, écrit l'Avanti, tandis que l'Unita parle de comportement majestueux et de qualité hautement dramatique. Le soprano a été acclamé 4 fois à la fin du premier acte, 5 à l'issue du second et 6 fois en fin de spectacle. Critique et public enthousiaste, donc, ici Milan, à vous Paris.
Puccini, Tosca dans la version française telle qu'on l'a donnée alors à l'Opéra de Paris. Nous étions en 1960 et Régine Crespin interprétait ce vici d'arte et d'art et d'amour. Vous l'aurez compris, Nos greniers de la mémoire abordent les rives d'une des grandes voix lyriques françaises, disparue il y a bientôt 2 ans, en juillet 2007. Dans ces années 1960, Régine Crespin est une femme habitée par un tempérament passionné, volcanique, même amoureux, gourmand. Autant dire qu'elle ne va pas se cantonner à un répertoire qui lui va pourtant ravir et qui fait se pâmer les lyricomanes. Alors nous allons l'écouter, une heure durant, égrener justement la liste de tous ces rôles féminins qui vont jalonner sa carrière. Mais en ouverture d'émission, tout d'abord voici une première archive. Nous sommes en 1965, Régine Crespin a 38 ans et elle s'entretient avec celui qui a été 20 ans durant le grand ordonnateur de la musique à la radio, le compositeur Henri Barrault, nommé directeur de la musique à la Libération, directeur de la chaîne nationale, ancêtre de France Culture et puis ici, intervieweur de haute volée. Ici, voici l'émission qui s'intitule « Les nouvelles musiques ». Henri Barrault questionne justement Régine Crespin sur le choix de la langue dans la nébuleuse wagnérienne et au-delà, bien évidemment.
Est-ce que le répertoire wagnérien vous donne un débouché, un exutoire à votre tempérament dramatique comparable oui. à celui que vous donne par exemple le rôle de Didon dans Les Troyens de Berlioz?
Ah, là, évidemment, vous touchez un point un peu spécial avec Didon, parce que le rôle de Didon apporte évidemment le côté vocal, le côté romantique, si vous voulez, dans le début de l'opéra, le côté légiaque, si vous voulez, et à la fin, le côté tout à fait noir et dramatique. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai chanté, parce que je trouve que c'est un rôle passionnant à cause de ça, parce qu'il y a vraiment les deux aspects du personnage et de la femme qui sont absolument formidables, enfin, à rendre. Alors là, oui, évidemment, c'est un peu le même genre de plaisir qu'on peut avoir chanté Wagner et Berlioz. Mais pour ma part, si j'oppose Wagner et Verdi, je n'hésiterai quand même pas une minute à choisir Wagner. Parce que Verdi est superbe à chanter, c'est passionnant, il n'y a pas de problème. Mais les personnages, au fond, sur la scène, le personnage dramatique n'est jamais très, très, très fouillé chez Verdi. Enfin, c'est plutôt vraiment du chant. Enfin. Alors que chez Wagner, vous avez tout de même le côté vocal qui existe, n'en parlons pas. Il y a aussi le côté de la langue allemande qui est absolument merveilleuse à chanter. On a
plus tant que l'italienne ?
Oh mon Dieu, oui, moi je suis tout à fait de cet avis.
Par exemple.
C'est beau à chanter l'italien, il n'y a aucun problème à ça. C'est une langue très... Il n'y a pas de problème pour le chant et l'italien, ça va très bien avec. Tandis que l'allemand, vous avez... Les mots sont merveilleux à dire, vous avez des couleurs vocales à trouver sur différents mots. Enfin, vous pouvez faire des sons plus clairs, des sons plus sombres, des sons plus... plat, des sons avec du souffle, des sons sans expression ou avec expression, vous avez mille possibilités avec l'allemand. Alors que le Verdi, c'est un peu toujours le même genre de tube, de belle voix qui sort, enfin, tant mieux si elle est belle d'ailleurs, mais on n'a pas autant de possibilités qu'avec Wagner.
C'est-à-dire que le répertoire wagnérien requiert des qualités bien plus rares.
À mon avis, oui, quand même.
Les Troyens d'Hector Berlioz, l'air de Didon dans le quatrième acte « Je vais mourir ». Berlioz, à l'époque où il travaillait à ce récit déchirant de Didon, confia combien la musique qu'il était en train de composer était d'une vérité déchirante. Et vous avez entendu ce calme dans l'air de Didon, « Adieu fier cité ». Par-delà la douleur et la mort, ce moment en fait où Didon accepte son sort. Et c'était bien entendu Régine Crespin dans cette air qu'elle interprétait en 1965 avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par ce grand chef d'opéra qu'est Georges Prêtre, au cœur de ces années 1960, ces années durant lesquelles Régine Crespin se choisit en quelque sorte sa carrière, auréolée du prestige de Bayreuth. Et pourtant, dès cette époque, elle sait, elle a conscience qu'un rôle doit être en adéquation avec un tempérament. Et c'est ici que réside sans doute un des secrets de son incandescence à la scène, comme elle va le confier des années plus tard dans un livre de mémoire paru chez Actes Sud en 1997. Je cite un extrait du texte de Régine Crespin. « Le travail, je l'ai appris presque seul. J'ai compris petit à petit qu'en scène, quelquefois, une force obscure qu'on cherche à domestiquer et une sorte de décharge impossible à décrire s'échappe de vous-même et vous propulse irrésistiblement en avant. » On va l'entendre maintenant, tout de suite. Nous sommes en compagnie de Dominique Plessis. L'émission s'intitule « Une saison d'opéra » et c'est une émission qui date de 1967.
Au fond, on est choisi dans un sens. Enfin, on ne choisit pas notre répertoire, c'est la voix qui choisit pour nous. Parce qu'au fond, nous chantons les choses que nous pouvons chanter. En fait, vous comprenez, un acteur, finalement, peut tout jouer, même si ça lui va plus ou moins bien. Mais enfin, il peut tout jouer. Par exemple, moi, si demain, il me prenait la fantaisie de dire « J'adore Lucia de la Marmont », je vais le chanter. Je ne pourrais pas, tout simplement, physiquement, je ne pourrais pas le chanter. Mon choix est vraiment très restreint par ma voix, par force. Je dois chanter les choses qui conviennent à ma tessiture vocale. Ceci dit, dans ce nombre d'ouvrages-là, bon, je peux choisir des choses que j'aime mieux que d'autres. Par exemple, je pourrais chanter Don Carlos, si vous voulez, c'est dans ma tessiture. Mais je déteste.
Elisabeth.
Oui, Elisabeth, je déteste ce rôle-là parce que je trouve que c'est un rôle qui n'apporte rien. Je veux dire, par là, si je ne le sens pas du tout et si je ne suis pas intéressé, je ne peux pas le faire uniquement parce que c'est dans ma tessiture, vous comprenez?
Torna a vincere.
Giuseppe Verdi, Ritorna Vincitor, revient victorieux qui clôt le premier acte d'Aïda, où Aïda se lamente et implore les dieux, un air que Régine Crespin interprétait toujours à l'Opéra de Paris en 1962. L'orchestre était dirigé par Georges Prêtre. S'il est un rôle qui va accompagner la chanteuse durant toute sa vie, c'est bien celui de la maréchale du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Depuis Bayreuth en 1958, Régine Crespin est revenue en vedette à l'opéra, mais c'est en même temps, comme elle va le confier dans son livre de souvenirs, Régine Crespin à la scène, à la ville, paru chez Actes Sud, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en même temps que la carrière, je la cite avec un grand C, a commencé ce jour-là à m'encercler, à m'avaler lentement, sûrement, cette carrière qui fut mon seul enfant. Et l'on sent ici tout ce qu'il y a eu de renoncement chez cette femme. Les rôles pourtant vont s'enchaîner dès ces années-là, Othello, Un bal masqué, et puis donc ses premiers pas sur la scène du Metropolitan Opera en 1962. Laurine Mazel dirige Rosenkavalier. À la mise en scène, celle qui fut l'immense maréchale de l'entre-deux-guerres, Lotte Lehmann. Derrière le rideau, à l'issue de la représentation où Régine Crespin prend ce rôle, eh bien Lotte Lehmann pleure et s'écrie « C'est la nouvelle maréchale de mon cœur », mission magnifique. Il y a quelques soirées à marquer d'une pierre blanche, a écrit toujours Crespin dans son livre de souvenirs. Peut-être 10 ou 12 dans toute une carrière, où vous êtes en état de grâce, où vous faites ce que vous voulez avec votre voix, où vous êtes à la fois en vous et hors de vous. Et ce soir de novembre, au Met, fut une de ces soirées. Régine Crespin va donc, à partir de cette époque-là, se poser comme une grande maréchale qu'elle va chanter dans tous les grands théâtres, souvent d'ailleurs pour sa première prise de rôle, que ce soit à Glyndebourne, à Covent Garden, à Berlin, à San Francisco ou à Vienne. On la retrouve en 1995, elle était au micro de François Castan pour l'émission Mémoire retrouvée sur France Musique.
C'est presque tout le temps, j'ai pratiquement fait mes débuts partout dans les villes étrangères, 9 fois sur 10 avec le Rosenkavalier, je ne sais pas. Pourquoi ? Bon, c'est un rôle que j'aimais beaucoup, qui m'allait bien, je dois dire la vérité, que je sentais bien, qui... Peut-être qu'il n'y avait pas tellement de maréchal à l'époque, il y avait Schwarzkopf, bien évidemment. Lisa della Casa, oui. Je sais pas, j'ai peut-être arrivé à un moment où il y avait une place à prendre. Et comme j'ai commencé à le chanter à Vienne, à Grenoble, à Berlin, un peu partout, on a su que j'existais, que c'était un rôle qui me convenait. Et même quand, par exemple, le maître m'a fait l'appel du pied pendant des années, il me proposait la première fois Faust. J'ai dit non, je ne veux pas chanter Faust pour mes débuts-là. Après, ils m'ont proposé Les Noces de Figaro. J'ai dit non, j'ai chanté, mais ce n'est pas vraiment mon vrai répertoire. Et M. Bing commençait à s'impatienter. Il dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Et finalement, bon, ils ont eu l'idée de m'offrir le Rosenkavalier. Et là, bien sûr, j'y vais en courant. Et donc, si je pouvais, au bout d'un moment, non pas imposer, mais enfin me suggérer que peut-être c'était un rôle qui me convenait, j'essayais de le dire.
C'est un rôle qui est difficile à cerner parce que cette femme est jeune, en fin de compte, elle a 30 ans.
Elle a 32 ans, 33 ans. Mais si vous voulez, pour l'époque, on était vieux plus tôt, enfin vieux, vieillissant plus tôt. Donc disons que ce serait comme maintenant une femme de 45, 48 ans, 50 ans, si vous voulez, pour l'époque. Donc elle était ni vieille, ni laide, ni repoussante, pas du tout. Elle était très séduisante. Enfin, c'est une femme ultra féminine avec beaucoup de classe. Mais elle sentait quand même que l'âge allait venir, comme une femme maintenant, disons, qui est autour de passer la quarantaine, entre 40 et 48 ans. Bon, ben elle se dit, ça va venir. Donc c'est ça qui est le vrai le ferment de ce personnage. C'est ça, quoi, parce qu'elle sent venir la vieillesse, elle dit où sont les neiges d'antan. Donc c'est ça qui est intéressant dans son personnage, c'est cette femme qui est une maréchale, enfin une femme de haut rang, et qui est traitée par Strauss et par Hofmannsthal comme une simple femme, un être humain qui souffre, qui a des chagrins, qui a des amertumes, des regrets, des peurs. Et c'est ça qui est extraordinaire sous ce dehors très grande dame, très Louis XV, perruque blanche, grand standing. Il y a l'être humain derrière, et ça, il faut le faire passer, parce que si on le fait pas passer, on rate la chose.
Thank you.
La fin du premier acte de Rosenkavalier de Richard Strauss, la maréchale laisse partir son amant et se retrouve seule devant son miroir. Elle se laisse aller alors à une profonde tristesse car elle sait que la vieillesse est proche et que son amant va bientôt aller vers une femme plus jeune. Et Régine Crespin a souvent confié qu'elle n'avait jamais pu jouer cette scène sans pleurer. Ici, nous l'entendions dans cette version d'anthologie avec l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Sir Georg Solti en 1968. Sa maréchale, donc Comète, en 1962, sa première maréchale, rencontre un succès foudroyant, tant et si bien que Rudolf Bing, le redouté patron du Met, va lui proposer dans la foulée d'interpréter la Senta du vaisseau fantôme, puis pour l'année 1963 Lohengrin avec le broadcast, soit la radiodiffusion dans tous les États-Unis et au Canada. Ce sont donc des années brillantes. Elle chante également à l'ouverture du festival de Pâques de Salzbourg en 1967, sa première Brunehilde dans La Valkyrie avec Herbert von Karajan à la baguette. Et puis pourtant l'année suivante, en 1968, c'est la crise qui survient, une profonde crise. Trop de fêlures, trop de pression, trop de chagrins sentimentaux et tout cela, bien sûr, se répercute sur la voix. Régine Crespin va s'arrêter, va reprendre des cours, va continuer néanmoins de chanter, mais c'est vraiment seulement en 1971 qu'elle rentre à nouveau pleinement dans sa voix pour interpréter 12 représentations triomphales. Elle campe Siglin dans La Valkyrie, avec la mise en scène de Wieland Wagner pour la réouverture de l'Opéra de Paris.
C'est une femme, et qui est une charnelle, une tellurique, et bon, qu'il arrive des malheurs, comme dans les opéras, il arrive toujours des malheurs à tout le monde. Mais le personnage lui-même me fascinait, me plaisait, me m'allait aussi, me convenait. Et j'avais une tendresse particulière pour ce personnage, et pour, surtout pour la façon dont les lignes de chant sont écrites, qui sont, je répète, très féminines, très, très charnelles, je ne peux pas dire mieux. C'est une femme dans toute l'acception du terme. Et ça me bottait, ça me convenait.
Il fallait que vos héroïnes soient des personnages.
Au départ, je n'aimais pas trop des héroïnes qui ne réagissaient pas ou qui pouvaient apparaître froides ou indifférentes. Bon, il y en a peu d'indifférentes. Mais il fallait pour ma part que j'aie, comment dirais-je, un personnage à interpréter qui soit de chair et de sang, qui soit humain. Et sinon, je n'étais pas attiré par d'autres personnages et en ce cas-là, je ne les chantais pas.
Sippe saß hier im Saal, vom Hunding vor Hochzeit geladen. Freut ein Weib, das ungefragt Schächer im Schenten zur Frau. Traurig saß ich, während sie tranken, ein Fremder trat da herein, ein Greis im grauen Gewand. Tief hing ihm der Hut, der deckt ihm der Augen eines, doch des
Thank you.
Der Männer sie besaß, ihr im Saal, l'air de Sieglinde du premier acte de la Valkyrie de Richard Wagner. Régine Crespin était Sieglinde, James King était Siegmund. L'orchestre philharmonique de Vienne était dirigé en 1962 par Sir Georg Soltin, production qui réunissait également Birgit Nilsson, Christa Ludwig, Hans Sauter et Gottlob Frick. Vous voyez un petit peu la production et c'est un disque d'Eka. Au Jardin des Oliviers, le Christ n'était plus maître de rien. Il a eu peur de la mort. Cette phrase est de Bernanos lorsque la seconde prière oppose une sagesse sereine à l'exaltation de Mère Marie, Bernanos que Francis Poulenc met en musique dans ce dialogue des Carmélites créé en italien à la Scala de Milan le 26 janvier 1957, puis en français tout de même 5 mois plus tard à l'Opéra de Paris. Régine Crespin est alors Madame Lidoine, Denise Duval et Blanche de la Force, Rita Gore et Mère Marie, et Liliane Berton et Sœur Constance, et la production était dirigée par Pierre Dervaux. En 1999, au micro de Renaud Machard, Régine Crespin évoquait sa rencontre, une rencontre absolument capitale, avec Francis Poulenc.
Je ne le connaissais pas, que de nom, bien sûr. Et puis quelqu'un, il disait partout, je cherche qu'une chanteuse avec un la exquisement piano. Et mon impresario d'alors, Michel Gloss, lui a dit, écoute, viens entendre Régine Crespin, merveilleuse. Je chantais Othello à ce moment-là, donc il est venu entendre une représentation d'Othello. Et à la fin, il est venu me féliciter, en s'écriant, ah, j'ai trouvé ma seconde prière, mon la, piano. Moi, je vois d'ailleurs grand yeux. Il me dit, est-ce que vous connaissez le dialogue des Carmélites de Bernanos? Je dis, oui, j'ai viens de voir la pièce qui se passait à Everto. Et il me dit, ben, je suis en train d'écrire un opéra sur ce texte. Et moi, affolé, enfin un peu choqué, je dis, oh, vous n'allez pas mettre de la musique sur ce texte de Bernanos, ça va pas avec de la musique. Alors il s'est mis à rire parce qu'il aurait pu se fâcher. Donc, évidemment, c'était quand même le grand Poulenc, et moi j'étais une jeune débutante, je crois que c'était en 54, 55. Et il a ri, il a dit, bon, est-ce que vous viendriez dîner à souper avec moi et des amis? Je dis, bon, bien sûr, je suis allé. On a parlé, il m'a donné rendez-vous pour le lendemain chez lui, je suis allé. Il m'a joué une des scènes de la seconde prière et j'ai trouvé ça très beau, bien sûr, donc il m'a eu.
Thank you.
Je crois qu'il a fait vraiment un vrai chef-d'œuvre. Je crois que s'il reste un opéra de notre siècle, celui-là sera un de ceux-là. Mais il était très sensible aux voix, aux couleurs de la voix, aux possibilités aussi d'une voix. Donc je répète, il n'était pas du tout ni buté, ni têtu en disant « c'est écrit comme ça, je ne chanterai pas ». Pas du tout.
Régine Crespin, vous avez, je crois, dit qu'au départ, ce rôle de la seconde prieure, vous le trouviez un peu fade, un peu simplet.
Oui, un peu. Je lui disais d'ailleurs à lui-même, je lui dis « bon, il est bien chantant, c'est bien, mais le rôle de la première prière, quel rôle ?» Moi, à ce moment-là, je commençais à être attiré par des personnages un peu plus dramatiques, un peu plus extériorisés, un peu plus exprimés. Alors que la seconde prière est choisie justement parce que c'est une femme calme, qui a les pieds sur la terre, qui est tranquille. Donc, j'enviais, pas jalousé, mais enfin, le rôle de la première prière. Et il m'a dit à cette époque, je me souviens, il m'a dit « oh, dans 15 ans, tu le chanteras sûrement ». Je lui ai dit « mais je pourrais jamais chanter, c'est trop grave ». Et 17 ans après, au Metz, je le chantais. C'est incroyable. Hélas, il était déjà disparu. Mais oui, c'est vrai qu'au départ, je fais un mea culpa tout à fait sincère. Je n'étais pas tellement admirative de l'œuvre parce que ça me choquait un peu, avec ma jeunesse, j'étais encore bien jeune d'entendre ces nonnes, ces prières chanter très élégamment, des Ave Maria. J'ai pas tellement mordu, même à l'étude du rôle et même à la lecture de la partition. Et puis petit à petit, comme on dit simplement, la mayonnaise a pris. J'ai compris quand même, au bout de quelques années, que c'était une œuvre extraordinaire.
Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, le dialogue entre la prieure, Madame de Croissy, qui était Régine Crespin, et Blanche de la Force, qui est interprétée par Félicity Lhôte. L'Orchestre National de France était dirigé en 1980 par Jean-Pierre Marty. Il s'agit d'un disque Ina Mémoire Vive que l'on doit à notre confrère Renaud Machard, dont vous connaissez la passion pour Francis Poulenc. Et puis, auparavant, Régine Crespin campait Madame Lidoine, la nouvelle prieure, dans le deuxième acte du dialogue des Carmélites, à l'issue de la cérémonie d'obédience de la nouvelle prieure qui s'adressait à la communauté des sœurs, et il s'agissait de l'enregistrement effectué lors de la création française de l'œuvre à l'Opéra de Paris en 1957 avec les chœurs et l'orchestre de l'opéra qui était placé sous la direction de Pierre Dervaux, soit 23 années qui séparaient ces deux dialogues avec cette voix de Régine Crespin qui s'était transformée et faisait d'elle désormais une grande Madame de Croissy. Merci à Michel Kress qui a mixé cette émission aujourd'hui. Les Greniers de la Mémoire est une émission réalisée toutes les semaines par Christine Amado avec le concours de Françoise Monteil. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de France Musique.